11. C'était par le 20e parallèle de latitude, dans la région des Alizés, un matin vers 6 heures. Sur le pont d'un navire qui était là tout seul, au milieu du bleu immense, un groupe de jeunes hommes se tenait, le torse nu, au soleil levant. C'était la bande d'Yves, les gabiers de Misaine et ceux du Beaupré. Ayant tous attaché sur leurs épaules leurs mouchoirs, qu'ils venaient de laver, ils restaient gravement le dos au soleil pour le faire sécher. Leurs figures brunes, leur rire avaient encore une grâce jeune enfant. Leur dandinement, la façon souple et moelleuse dont ils posaient leurs pieds nus, avait quelque chose du chat. Et tous les matins, à cette même heure, à ce même soleil, dans ce même costume, ce groupe se tenait sur ces mêmes planches qui les promenaient, insouciants, au milieu des infinis de la mer. Ce matin-là, ils discutaient sur la lune, sur son visage humain, qui leur était resté de la nuit comme une obsédante image blême gravée dans leur mémoire. Pendant tout leur quart, ils l'avaient vue là-haut, suspendue toute seule, toute ronde, au milieu de l'immense vide bleuâtre. Même ils avaient été obligés de se cacher le front, pendant leur sommeil, le ventre à l'air et à la belle étoile, à cause des maladies et maléfices qu'elle jette sur les yeux des matelots lorsque ceux-ci s'endorment sous son regard. Ils étaient là quelques-uns qui conservaient toujours et quand même un grand air de noblesse. Je ne sais quoi de superbe dans l'expression et la tournure, et le contraste était singulier entre leur aspect et les choses naïves qu'ils faisaient. Il y avait Jean Barada, le sceptique de cette compagnie, qui lançait de temps à autre dans la discussion l'éclat mordant de son rire, montrant ses dents blanches toujours et renversant sa belle tête en arrière. Il y avait Clé Kerzulek, un breton de l'île d'Ouessant, qui se préoccupait surtout de ses traits humains estompés sur ce disque pâle. Et puis le grand Barazer, qui jouait le sérieux et l'érudit, leur assurant que c'était un monde beaucoup plus grand que le nôtre et dans lequel vivaient des peuples étranges. Eux secouaient la tête, incrédules, et Yves disait, très songeur, « Tout ça, c'est des choses, vois-tu, Barazer, dans lesquelles je crois que tu ne te connais pas beaucoup. » Et puis il ajoutait d'un air qui tranchait la discussion, que d'ailleurs il allait venir me trouver et se faire bien expliquer ce qu'était que la lune. Après, il reviendrait le leur apprendre à tous. Nul doute, en effet, que je ne fusse très au courant des choses de la lune, comme de tout le reste. D'abord, on m'avait souvent vu occupé à la regarder marcher à travers un instrument de cuivre, en compagnie d'un timonier qui me comptait tout haut, d'une voix monotone d'horloge, les minutes et les secondes tranquilles de la nuit. Cependant, les petits mouchoirs séchaient sur les dos nus des jeunes hommes, et le soleil montait dans le grand ciel bleu. Il y en avait de ces petits mouchoirs qui étaient tout uniment blancs, d'autres qui avaient des dessins de plusieurs couleurs, et même qui portaient de beaux navires imprimés au milieu dans des cadres rouges. Moi, qui étais de quart, je commandais « À larguer le ris de chasse !» Et le maître d'équipage fit irruption au milieu des causeurs en sifflant dans son sifflet d'argent. Alors, brusquement, en un clin d'œil, comme une bande de chats sur lesquels on a lancé un dogue, ils se dispersèrent tous en courant dans la mâture. Yves habitait là-haut dans sa hune. En regardant en l'air, on était sûr de voir sa silhouette large et svelte sur le ciel, mais on le rencontrait rarement en bas. C'est moi qui montais de temps en temps lui faire visite, bien que mon service ne m'y obligeât plus depuis que j'avais franchi le grade de midship. Mais j'aimais assez ce domaine d'Yves, où l'on était éventé par un air encore plus pur. Dans cette hune, il avait ses petites affaires, un jeu de cartes dans une boîte, du fil et des aiguilles pour coudre, des bananes volées, des salades prises la nuit dans les réserves du commandant, tout ce qu'il pouvait ramasser de frais et de verre dans ses maraudes nocturnes. Les matelots sont friands de ces choses rares qui guérissent les gencives fatiguées par le sel. Et puis il avait sa perruche, attachée par une patte et fermant sous le soleil ses yeux clignotants. Sa perruche était un hibou à grosse tête des pampas, tombé un jour à bord à la suite d'un grand vent. Il y a des bizarres destinées sur la terre, ainsi celle de ce hibou faisant le tour du monde en haut d'un mât. Quel sort inattendu! Il connaissait son maître et le saluait par de petits battements d'ailes joyeux. Yves lui faisait régulièrement manger sa propre ration de viande, ce qui pourtant ne l'empêchait pas d'élargir. Cela l'amusait beaucoup, en le regardant de tout près dans les yeux, de le voir se retirer, se cambrer d'un air de dignité offensée, en dodelinant de la tête avec un tic d'ours. Alors il était pris de fou rire, et il lui disait avec son accent breton « Oh, mais comme tu as l'air bête, ma pauvre perruche !» De là-haut, on dominait comme de très loin le pont de la Sibylle, une Sibylle aplatie, fuyante, très drôle à regarder de ce domaine d'Yves, ayant l'air d'une espèce de long poisson de bois, dont la couleur de sapin neuf tranchait sur les bleus profonds, infinis de la mer. Et dans tous ces bleus transparents, au milieu du sillage, derrière, une petite chose grise, ayant la même forme que le navire et le suivant toujours entre deux eaux, le requin. Il y a toujours un requin qui suit, rarement deux. Seulement, quand on l'a pêché, il en vient un autre. Il suit pendant des nuits et des jours, il suit sans se lasser, pour manger tout ce qui tombe, débris quelconque, homme vivant ou homme mort. De temps en temps, il y avait de toutes petites hirondelles qui venaient aussi nous faire cortège pour s'amuser, par caprice, picorant les miettes de biscuits que nous semions derrière nous dans ce désert d'eau, et puis disparaissant au loin en décrivant des courbes joyeuses. Petites bêtes d'une espèce rare, de couleur rousse à queue blanche, qui vivent on ne sait comment, perdues au milieu des grandes eaux, toujours au plus large des mers. Yves, qui en voulait une, lui tendait des pièges, mais elle, très fine, ne venait pas s'y prendre. Nous approchions de l'équateur, et le souffle régulier de l'Alizée commençait à mourir. C'était maintenant des brises folles qui changeaient, et puis des instants de calme où tout s'immobilisait dans une sorte d'immense resplendissement bleu, et alors on voyait les vergues, les unes, les grandes voiles blanches, dessiner dans l'eau des commencements d'images renversées qui ondulaient. La Sibylle ne marchait plus, elle était lente et paresseuse. Elle avait les mouvements de quelqu'un qui s'endort. Dans la grande chaleur humide, que les nuits mêmes ne diminuaient plus, les choses comme les hommes se sentaient prises de sommeil. Peu à peu, il se faisait dans l'air des tranquillités étranges. Et maintenant, des nuées lourdes, obscures, se traînaient sur la mer chaude, comme de grands rideaux noirs. L'équateur était tout près. Quelquefois, des troupes d'hirondelles, de grande taille celles-ci et d'allure bizarre, surgissaient tout à coup de la mer, prenaient un vol effaré avec de longues ailes pointues d'un bleu luisant, et puis retombaient, et on ne les voyait plus. C'étaient des bancs de poissons volants qui s'étaient heurtés à nous et que nous avions réveillés. Les voiles, les cordages pendaient inertes, comme choses mortes. Nous flottions sans vie comme une épave. En haut, dans le domaine d'Yves, on sentait encore des mouvements lents qui n'étaient plus perceptibles en bas. Dans cet air immobile et saturé de rayons, la une continuait de se balancer avec une régularité tranquille qui portait à dormir. C'étaient de longues oscillations molles qu'accompagnaient toujours les mêmes frôlements des voiles pendantes, les mêmes crissements des bois secs. Il faisait chaud, chaud, et la lumière avait une splendeur surprenante, et la mer morne était d'un bleu laiteux, d'une couleur de turquoise fondue. Mais quand les grosses nuées étranges qui voyageaient tout bas à toucher les eaux passaient sur nous, elles nous apportaient la nuit et nous inondaient d'une pluie de déluge. Maintenant, nous étions tout à fait sous l'équateur, et il semblait qu'il n'y eût plus un souffle dans l'air pour nous en faire partir. Cela durait des heures quelquefois, tout un jour, ces obscurités et ces pluies lourdes. Alors, Yves et ses amis prenaient une tenue qu'ils appelaient « tenue de sauvage », et puis s'asseyaient insouciants sous l'ondée chaude et laissaient pleuvoir. Cela finissait toujours tout d'un coup. On voyait le rideau noir s'éloigner lentement, continuer sa marche traînante sur la mer couleur de turquoise, et la lumière splendide reparaissait plus étonnante après ces ténèbres, et le grand soleil équatorial buvait très vite toute cette eau tombée sur nous. Les voiles, les bois du navire, les tentes retrouvaient leur blancheur sous ce soleil. Toute la Sibylle reprenait sa couleur claire de choses sèches au milieu de la grande monotonie bleue qui s'étendait alentour. De la hune où Yves habitait, en regardant en bas, on voyait que ce monde bleu était sans limite. C'était des profondeurs limpides qui ne finissaient plus. On sentait combien c'était loin cet horizon, cette dernière ligne des eaux, bien que ce fût toujours la même chose que de près. Toujours la même netteté, toujours la même couleur, toujours le même poli de miroir. On avait conscience alors de la courbure de la terre qui seule empêchait de voir au-delà. Aux heures où se couchait le soleil, il y avait en l'air des espèces de voûtes formées par des successions de tout petits nuages d'or. Leurs perspectives fuyantes s'en allaient en diminuant se perdre dans les lointains du vide. On les suivait jusqu'au vertige. C'était comme des nefs de temples apocalyptiques n'ayant pas de fin. Et tout était si pur qu'il fallait l'horizon de la mer pour arrêter la vue de ces profondeurs du ciel. Les derniers petits nuages d'or venaient tangenter la ligne des eaux et semblaient dans l'éloignement aussi minces que des hachures. Ou bien quelquefois c'était simplement de longues bandes qui traversaient l'air, or sur or. Les nuages d'un or clair et comme incandescent, sur un fond byzantin d'or mat et terni. La mer prenait là-dessous une certaine nuance bleue pan avec des reflets de métal chaud. Ensuite, tout cela s'éteignait très vite dans des limpidités profondes, dans des couleurs d'ombre auxquelles on ne savait plus donner de nom. Et les nuits qui venaient après, les nuits mêmes, étaient lumineuses. Quand tout s'était endormi dans des immobilités lourdes, dans des silences morts, les étoiles apparaissaient en haut plus éclatantes que dans aucune autre région du monde. Et la mer aussi éclairait par en dessous. Il y avait une sorte d'immense lueur diffuse dans les eaux. Les mouvements les plus légers, le navire dans sa marche lente, le requin en se retournant derrière, dégageaient dans les remous tièdes des clartés couleur de verre luisant. Et puis, sur le grand miroir phosphorescent de la mer, il y avait des milliers de flammes folles. C'était comme des petites lampes qui s'allumaient d'elles-mêmes partout, mystérieuses, brûlaient quelques secondes et puis mouraient. Ces nuits étaient pâmées de chaleur, pleines de phosphore, et toute cette immensité éteinte couvait de la lumière. Et toutes ces eaux enfermaient de la vie latente à l'état rudimentaire, comme jadis les eaux mornes du monde primitif. 12. Il y avait quelques jours que nous avions quitté ces tranquillités de l'équateur, et nous filions doucement vers le sud, poussés par l'alizée australe. Un matin, Yves entra très affairé dans ma chambre pour préparer ses lignes à prendre les oiseaux. On avait vu, disait-il, les premiers damiers derrière. Ces damiers sont des oiseaux du large, proches parents des goélands, et les plus jolis de toute cette famille de la mer. D'un blanc de neige, les plumes douces et soyeuses, avec un damier noir finement dessiné sur les ailes. Les premiers damiers. C'est déjà un grand éloignement qu'indique leur seule présence, signe qu'on a laissé bien loin derrière soi notre hémisphère boréal et qu'on arrive aux régions froides qui sont sur l'autre versant du monde, là-bas vers le sud. Ils étaient en avance pourtant, ces damiers-là, car nous naviguions encore dans la zone bleue des alizés. Et c'était tous les jours, toutes les nuits, le même souffle régulier, tiède, exquis à respirer. Et la même mer transparente, et les mêmes petits nuages blancs, moutonnés, passant tranquillement sur le ciel profond, et les mêmes bandes de poissons volants, s'enlevant comme des fous avec leurs longues ailes humides et brillant au soleil comme des oiseaux d'acier bleui. Il y en avait des quantités de ces poissons volants, et quand ils s'en trouvaient d'assez étourdis pour s'abattre à bord, vite les gabiers leur coupaient les ailes et les mangeaient. L'heure qu'Yves affectionnait pour descendre de sa hune et venir rendre visite à ma chambre, c'était le soir, au moment surtout où les appels et le branle-bas venaient de finir. Il arrivait tout doucement, sans faire avec ses pieds nus plus de bruit qu'un chat. Il buvait à même un peu d'eau douce dans une gargoulette à rafraîchir qui était pendue à mon sabord, et puis il mettait en ordre diverses choses qui m'appartenaient, ou bien lisait quelques romans. Il y en avait un surtout, de George Sand, qui le passionnait, le marquis de Villemer. À première lecture, je l'avais surpris près de pleurer vers la fin. Yves savait coudre très habilement, comme tous les bons matelots, et c'était drôle de le voir se livrer à ce travail, étant donné son aspect et sa tournure. Dans ses visites du soir, il lui arrivait de passer en revue mes vêtements de bord et d'y faire des réparations qu'il jugeait mon domestique incapable d'exécuter comme il convenait. 13. Nous marchions toujours, toujours, avec toutes nos voiles, vers le sud. Maintenant, c'était des nuées de damiers et d'autres oiseaux de mer qui voyageaient derrière nous. Ils nous suivaient étonnés et confiants, depuis le matin jusqu'à la nuit, criant, se démenant, volant par courbes folles, comme pour nous souhaiter la bienvenue à nous, autres grands oiseaux aux ailes de toile, qui entrions dans leur domaine lointain et infini, l'océan austral. Et leur troupe grossissait toujours à mesure que nous descendions. Avec les damiers, il y avait les pétrels gris-perles, le bec et les pattes légèrement teintés de bleu et de rose, et les malamocs tout noirs, et les gros albatros lourds, d'une teinte sale, avec leur air bête de mouton, avec leurs ailes rigides et immenses, fendant l'air, piaulant après nous. Même on en voyait un que les matelots se montraient, un amiral, oiseau d'une espèce rare et énorme, ayant sur ses longues pennes les trois étoiles dessinées en noir. Le temps, changé, était devenu calme, brumeux, morne. L'alizé austral était mort à son tour, et la limpidité des tropiques était perdue. Une grande fraîcheur humide surprenait nos sens. On était en août, et c'était le froid de l'autre hémisphère qui commençait. Quand on regardait tout autour de soi l'horizon vide, il semblait que le nord, le côté du soleil et des pays vivants, fût encore bleu et clair, tandis que le sud, le côté du pôle et des déserts d'eau, était ténébreux. Par ma grande protection, Yves avait obtenu, pour sa perruche, un compartiment réservé dans une des cages à poules du commandant, et il allait chaque soir la couvrir avec un morceau de voile pour qu'elle ne fût pas incommodée par l'air de la nuit. Tous les jours, les matelots pêchaient avec leurs lignes des damiers et des pétrels. On en voyait des rangées écorchées comme des lapins qui pendaient tout rouges dans les haubans de misaine, attendant leur tour pour être mangés. Au bout de 2 ou 3 jours, quand ils avaient rendu toute l'huile de leur corps, on les faisait cuire. C'était le garde-manger des gabiers, ces haubans de misaine. À côté des damiers et des pétrels, on y voyait même des rats quelquefois, déshabillés aussi de leur peau et pendus par la queue. Une nuit, on entendit tout à coup se lever une grande voix terrible, et tout le monde s'agiter et courir. En même temps, la Sibylle s'inclinait toujours, toute frémissante sous l'étreinte d'une ténébreuse puissance. Alors ceux même qui n'étaient pas de quart, ceux qui dormaient dans les faux-ponts, comprirent. C'était le commencement des grands vents et des grandes houles. Nous venions d'entrer dans les mauvais parages du sud, au milieu desquels il allait falloir se débattre et marcher quand même. Et plus nous avancions dans cet océan sombre, plus ce vent devenait froid, plus cette houle était énorme. Les tombées des nuits devenaient sinistres. C'étaient les parages du Cap Horn. Désolation sur les seules terres un peu voisines, désolation sur la mer, désert partout. À cette heure des crépuscules d'hiver, où l'on sent plus particulièrement le besoin d'avoir un gîte, de rentrer près d'un feu, de s'abriter pour dormir, nous n'avions rien, nous. Nous veillions, toujours sur le qui-vive, perdu au milieu de toutes ces choses mouvantes qui nous faisaient danser dans l'obscurité. On essayait bien de se faire des illusions de chez soi, dans les petites cabines rudement secouées, où vacillaient les lampes suspendues. Mais non, rien de stable. On était dans une petite chose fragile, égarée, loin de toute terre, au milieu du désert immense des eaux australes. Et au dehors, on entendait toujours ces grands bruits de houle et cette grande voix lugubre du vent qui serrait le cœur. Et Yves, lui, n'avait guère que son pauvre hamac balancé, où une nuit sur deux, on lui laissait le loisir de dormir un peu chaudement. 14. Ce fut un matin, à l'entrée de la mer des Célèbes, que mourut cette chouette qui était la perruche d'Yves. Un matin de grand vent, où l'on prenait le second riz au hunier. Elle se laissa écraser, par insouciance, entre le mât et la vergue. Yves, qui entendit son cri rauque, vola à son secours, mais trop tard. Il redescendit de la hune, rapportant dans sa main sa pauvre perruche morte, aplatie, n'ayant plus forme d'oiseau. Un mélange de sang et de plumes grises, au-dessus duquel remuait encore une pauvre patte crispée. Yves avait du chagrin, je le voyais bien dans ses yeux, mais il se contenta de me la montrer sans rien dire, en mordant sa lèvre dédaigneuse. Puis il la lança à la mer, et le requin qui nous suivait la croqua comme une ablette.